La surface extérieure d'un ballon est toujours plus grande que son foutu centre. C'est toute la signification de la grande dispersion. Réponse du Bene Gesserit à la suggestion ixienne d'envoyer de nouvelles sondes à la recherche des égarés. Une navette rapide du Bene Gesserit conduisit Miles Stagg jusqu'au transport de la guilde en orbite autour de Gameux. Il n'aimait pas s'absenter de la citadelle en un moment pareil, mais priorité faisait loi. Il avait aussi un pressentiment sur toute cette aventure. En 3 siècles d'expérience, Stagg avait appris à écouter ses pressentiments. Les choses n'allaient pas très bien sur Gameux. Chaque patrouille, chaque message transmis par les télésenseurs, les rapports envoyés par les observateurs de Patrine dans les différentes cités, tout contribuait à nourrir l'inquiétude de Stagg. En tant que mentat, il ressentait le mouvement des forces à l'intérieur et autour de la citadelle. Le Gola dont on lui avait confié la charge était menacé. L'ordre de se présenter, prêt à toute violence, à bord d'un transport de la guilde, venait cependant de Taratsa elle-même et portait un crypto-identificateur à l'épreuve de toute falsification. À bord de la navette qui le conduisait à son rendez-vous là-haut, Stagg Miles se préparait mentalement au combat. Toutes les mesures de protection qu'on pouvait prendre à la citadelle avaient déjà été décidées. Lucille était prévenue. Il avait confiance en elle. Shvangyu, c'était autre chose. Stagg avait fermement l'intention d'aborder avec Taratsa le problème des modifications importantes à apporter dans la manière dont la citadelle de Gameux était tenue. Mais d'abord, il avait un autre combat à gagner. Dans son esprit, il ne faisait pas le moindre doute que le conflit était sur le point d'éclater. Tandis que la navette manœuvrait pour accoster, Stagg vit par un hublot le gigantesque symbole ixien à l'intérieur du cartouche de la guilde, sur le côté non éclairé du transport. C'était un vaisseau que la guilde avait reconverti à l'emploi des machines ixiennes qui se substituaient aux navigateurs traditionnels. Il devait y avoir à bord une équipe de techniciens ixiens pour s'occuper des machines. Il y avait probablement aussi un authentique navigateur de la guilde. Celle-ci n'avait jamais tout à fait appris à faire confiance aux machines ixiennes, même si elle exhibait ses transports reconvertis comme un message à l'adresse des Kleylaxu et des Rakiens. « Voyez comme nous pouvons très bien nous passer de votre mélange. » Telle était la véritable signification du cartouche aux couleurs ixiennes que Stagg était en train de contempler sur la coque du vaisseau spatial. Il perçut la légère secousse due au grappin d'accostage et prit une profonde inspiration pour relaxer ses nerfs tendus. Il ressentait ce qu'il avait toujours ressenti juste avant la bataille, le vide dans son esprit et surtout l'absence de tout rêve trompeur. Ils avaient échoué. La discussion n'ayant pas rempli son office, les armes allaient parler, à moins qu'ils ne trouvent un autre moyen de gagner. La guerre, ces temps-ci, prenait rarement des proportions massives, mais la mort n'en était pas moins là. Et cela représentait un échec de nature plus permanente. Si nous ne sommes pas capables de régler nos différends de manière pacifique, nous sommes moins qu'humains. Un subalterne à l'accent typiquement ixien guida Miles Stagg jusqu'à la salle où attendait Taratsa. Le long de chaque coursive et dans le pneumotube où on lui fit prendre place, il cherchait des signes qui auraient pu confirmer l'avertissement secret contenu dans le message de la mère supérieure. Mais tout semblait calme, comme à l'ordinaire. Le subalterne manifestait envers lui la déférence à laquelle un bachar pouvait s'attendre. « Je faisais partie du commandement Tireg, à Andioyou, » dit-il à Stagg, citant l'une de ses batailles où il avait triomphé sans avoir besoin de combattre. Ils arrivèrent devant une porte ovale ordinaire percée dans la paroi d'une coursive ordinaire. La porte s'ouvrit, et Stagg pénétra dans une pièce au mur blanc de dimensions plus que confortables. Elle était meublée de fauteuils pliants, de petites tables basses et de brilleurs réglés dans le jaune. La porte étanche se referma derrière lui sur ses joints avec un bruit sourd, laissant son guide dans la coursive. Une acolyte du Bene Gesserit écarta la tenture légère qui dissimulait un passage à la droite de Stagg. Elle inclina légèrement la tête. Sa présence allait être annoncée à Taratsa. Stagg réprima un tremblement dans les muscles de son mollet. Danger. Il ne s'était pas trompé sur l'avertissement secret contenu dans le message de Taratsa. Ses précautions avaient-elles été adéquates? Il y avait à sa gauche un fauteuil léger devant une longue table noire, et un second siège au bout de la table. Il se dirigea vers ce côté de la pièce et attendit le dos au mur. Il remarqua qu'un peu de la terre jaune de gameux adhérait encore au bout de ses chaussures. Il y avait une drôle d'odeur dans cette pièce. Il plissa les narines. Du chéré. Taratza et sa suite s'étaient-elles prémunies contre les sons d'Ixienne? Teg avait absorbé, comme d'habitude, sa capsule de chéré avant de monter dans la navette. Il y avait trop de choses dans sa tête qui auraient pu profiter à l'ennemi. Mais le fait que Taratza eût laissé traîner cette odeur derrière elle avait une autre implication. C'était un message à un observateur dont elle ne pouvait empêcher la présence. Taratza entra par le passage derrière la tenture. Elle avait l'air fatiguée, se dit Teg. C'était d'autant plus remarquable que les sœurs étaient capables de dissimuler leur fatigue jusqu'au moment où elles tombaient, ou presque. Manquait-elle à ce point de force, ou était-ce encore un signal à l'intention d'observateurs cachés? Du seuil de la pièce, Taratza étudia Teg. Le Bachar paraissait plus vieux que lors de leur dernière rencontre, songea-t-elle. Ses responsabilités sur Gameux l'avaient marquée, mais elle trouvait cela plutôt rassurant. Il faisait son travail.
« Votre promptitude est appréciée, Miles, » dit-elle.
« Appréciée. » Leur code pour dire « Nous sommes observés secrètement par un dangereux ennemi. » Teg hocha la tête en jetant un coup d'œil à la tenture qui avait livré passage à Taratza. La mère supérieure s'avança en souriant. « Pas le moindre signe sur lui des effets du mélange, » remarqua-t-elle. L'âge respectable qu'il commençait à atteindre le faisait toujours soupçonner d'avoir recours à l'épice pour en alléger le fardeau. Mais rien n'indiquait l'existence d'une dépendance à laquelle les plus forts se résignaient parfois quand ils sentaient leur fin approcher. Teg avait revêtu son ancien uniforme de Bachar suprême, mais sans les étoiles d'or à l'épaule et sur le revers du col. C'était un signal qu'elle reconnut et qui disait « Souvenez-vous que je les ai gagnés à votre service, je ne vous ai pas failli cette fois-ci non plus. » Les yeux qui la fixaient sans bouger étaient dépourvus de toute expression. Tout dans son attitude indiquait la plus profonde sérénité intérieure, en contradiction totale avec ce qu'il devait, elle le savait, éprouver en réalité. Il attendait son signal.
« Notre Gola devra être éveillée à ses souvenirs dans les meilleurs délais, » dit-elle en coupant sa réponse d'une main impérieuse. « J'ai connaissance des rapports de Lucille et je sais qu'il est bien jeune, mais nous sommes forcés d'agir. »
Elle parlait pour ceux qui les observaient. Fallait-il croire ce qu'elle disait?
« Je vous donne l'ordre de procéder à cet éveil, » ajouta la mère supérieure avec une torsion de son poignet gauche qui confirmait ses paroles dans leur langage gestuel secret.
C'était donc vrai. Ses yeux se tournèrent imperceptiblement vers la tenture qui dissimulait le passage par où était venue Taratza. Qui se trouvait là? Il mit ses talents de mentat sur le problème. Beaucoup d'éléments lui manquaient, mais cela ne l'arrêtait pas. Un mentat se passait de beaucoup de choses, à condition de pouvoir constituer une trame. Dans certains cas, quelques grandes lignes suffisaient à fournir la configuration recherchée, qu'il ne restait plus qu'à compléter en y insérant les morceaux manquants. Les mentat possédaient rarement toutes les données qu'ils pouvaient désirer, mais Teg avait été formé à isoler les trames, à reconnaître les systèmes et les ensembles. Il se rappelait également qu'il avait été formé militairement comme on forme une arme destinée à être pointée correctement sur l'ennemi. Taratza était en train de le pointer comme un canon. Son évaluation de la situation présente s'avérait exacte.
« On cherchera à tuer ou à capturer le Gola par tous les moyens avant que vous puissiez l'éveiller, » reprit Taratza.
Il identifia ce ton. Elle offrait froidement des données à l'analyse d'un mentat. Elle avait donc vu qu'il était sur ce mode. La recherche de trame se poursuivait systématiquement dans son esprit en alerte. Il y avait en premier lieu le dessein des sœurs concernant le Gola. Il en ignorait à peu près tout, sauf que cela tournait autour de la présence sur Rakis d'une jeune fille qui, disait-on, avait le pouvoir de commander au ver. Les Gola Idaho avaient une charmante personnalité, plus quelque chose d'autre qui avait poussé le tyran et les Tleilaxu à les reproduire d'innombrables fois. Des cargaisons de Duncan. Quel service lui rendait ce Gola pour que le tyran ne l'ait jamais laissé reposer en paix parmi les morts? Et les Tleilaxu avaient continué pendant des millénaires, même après la mort du tyran, à décanter des Gola Duncan Idaho dans leur cuve Axlotl. Ils avaient vendu 12 fois ce gola au Béné Gesserit, qui payait dans la meilleure monnaie qui fût, du mélange tiré de ses précieuses réserves. Pourquoi le Tleilax acceptait-il en paiement quelque chose qu'il produisait en abondance? La réponse était évidente. Pour vider les réserves des sœurs. Une forme de cupidité très particulière. Le Tleilax achetait la suprématie. C'était le pouvoir qui était en jeu. Il fixa la mère supérieure qui attendait calmement.
Les Tleilaxus tuent nos golas l'un après l'autre pour contrôler nos réflexes, dit-il.
Taratza hocha la tête sans répondre. Il y avait donc autre chose. Il se replongea dans le mode Mentat. Le Bene Gesserit constituait un précieux marché pour le mélange Tleilaxus. Ce n'était pas leur seule source, car il y avait toujours la production infime de rakis, mais c'était pour les sœurs une source appréciable. Oui, très appréciable. Il n'était pas raisonnable que le Tleilax s'aliène un si précieux marché, à moins de disposer quelque part d'un marché potentiel encore plus précieux. Qui d'autre s'intéressait aux activités du Bene Gesserit?
Les Ixiens, sans aucun doute.
Mais les Ixiens n'étaient pas un marché pour le mélange. Leur seule présence à bord de ce vaisseau indiquait leur indépendance. Et comme les Ixiens et les Truites faisaient cause commune, ces dernières pouvaient être écartées de la recherche de trames. Quelle puissance ou quelle coalition de puissances possédait dans cet univers? Teg figea cette pensée comme s'il venait d'activer les rétrofreins d'un orni. Il laissa flotter librement son esprit tandis qu'il détaillait d'autres considérations. Pas dans cet univers. La trame prenait forme. Toutes ces richesses, dans ces computations de Mentat, Gameux jouait un nouveau rôle. Cette planète avait été jadis vidée de toutes ses ressources par les Harkonnen, qu'il avait abandonnée comme une carcasse pourrie. Les Daniens lui avaient redonné sa splendeur. Il y avait eu une époque, cependant, où tout espoir semblait perdu pour Gameux. Même les rêves avaient disparu. Remontant de ces sombres abîmes, la population était devenue bassement pragmatique. Si ça marche, c'est que c'est bien. La richesse. Lors de son premier contact avec Gameux, il avait remarqué le nombre élevé de banques. Certaines étaient signalées comme protégées par le Bene Gesserit. Gameux servait de plaque tournante pour la manipulation de richesses énormes. La banque qu'il avait visitée un jour afin de vérifier la possibilité de l'utiliser comme contact en cas d'urgence revint pleinement à son attention de Mentat. Il s'était immédiatement rendu compte qu'elle ne se confinait pas dans des transactions purement planétaires. C'était une banque pour les banquiers. Pas seulement des richesses, mais une richesse illimitée. Il n'avait pas encore une trame maîtresse, mais il en savait assez pour une projection d'essai. Des richesses qui n'étaient pas de cet univers. Les gens de la dispersion. Toutes ces computations de Mentat ne lui avaient pris que quelques secondes. Ayant atteint le stade de la projection, Teg se mit en état de décontraction musculaire et nerveuse, jeta un seul coup d'œil à Taratza et marcha vers le passage dissimulé par la tenture. Il remarqua que Taratza ne donnait aucun signe d'alarme. Écartant la tenture d'un mouvement brusque, Teg fit face à un homme presque aussi grand que lui. Costume de style militaire, javelot croisé à la patte du collet. Le visage était rude, la mâchoire large, les yeux verts. L'air surpris mais alerte, il avait une main à hauteur d'une poche qui dissimulait visiblement une arme. Teg lui sourit, laissa retomber la tenture et retourna vers Taratza.
Nous sommes épiés par les gens de la dispersion, fit-il.
Taratza se sentit soulagé. Teg s'était montré à la hauteur de ce qu'elle attendait. La tenture s'écarta. L'inconnu s'avança et s'arrêta à 2 pas de Teg, les traits figés en une expression de colère glaciale.
« Je vous avais averti de ne rien lui dire !»
s'écria-t-il d'une voix grinçante de baryton dont Teg entendait l'accent pour la première fois.
« Et je vous avais mis en garde contre les pouvoirs de ce Bashar Mentat !»
fit Taratza avec une lueur de mépris dans les yeux. L'homme se radoucit et une subtile expression de crainte se peignit sur son visage.
Croyez bien, honoré matriarche, que je...
N'ayez pas l'impudence de m'appeler ainsi,
explosa Taratza, le corps arqué dans une posture de combat que Teg la voyait adopter pour la première fois.
Chère madame, vous ne contrôlez pas la situation. Je dois vous rappeler que mes ordres...
Teg en avait suffisamment entendu.
Elle la contrôle par mon entremise, dit-il. Avant de venir ici, j'ai pris certaines précautions. Nous ne sommes pas...
Il regarda autour de lui avant de reporter son attention sur l'homme dont le visage était devenu circonspect.
À bord d'un non-vaisseau. Deux de nos propres non-vaisseaux vous tiennent en ce moment dans leur ligne de mire.
Vous ne survivriez pas,
aboya l'homme. Personne à bord de ce vaisseau ne survivrait, fit Egg en souriant aimablement et en serrant la mâchoire pour déclencher le signal nerveux activant le minuteur à pulsations implanté dans son crâne. Immédiatement, les impulsions graphiques s'inscrivirent dans ses centres visuels.
« Et vous n'avez pas beaucoup de temps, ajouta-t-il, pour prendre votre décision. »«
Expliquez-lui comment vous avez su ce qu'il fallait faire, » dit Aratza.
« La mère supérieure et moi, nous avons nos propres moyens de communication, » dit Egg. Mais en vérité, elle n'avait pas besoin de me prévenir. Sa convocation suffisait. Être présente de son propre gré sur un transport de la guilde à une heure pareille, impossible.
C'est l'impasse, grogna l'homme.
Peut-être. Mais ni la guilde, ni les Ixiens ne prendront le risque de provoquer une attaque massive de force du Bene Gesserit, placée sous le commandement de quelqu'un qui a été formé par moi. Je veux parler du Bachar Burt Mali. Votre appui vient de s'évanouir en fumée.
Je ne lui ai rien dit de tout cela, fit Aratza. Vous venez simplement d'assister à la démonstration des pouvoirs d'un Bachar Mentat, dont je doute qu'il puisse être égalé dans votre univers. Songez-y si vous envisagez d'affronter un homme comme Burt Mali, formé par ce Mentat.
L'autre porta son regard de Taratza à Teg, puis de Teg à Taratza.
La seule manière de sortir de ce qui vous paraît être une impasse, dit Teg, c'est que la mère supérieure Taratza et sa suite quittent ce vaisseau avec moi. Vous devez vous décider immédiatement. Le délai va expirer.
Vous bluffez, dit l'homme.
Mais ces mots n'avaient aucune force. Teg se tourna vers Taratza et s'inclina.
Ce fut un grand honneur pour moi de vous servir, révérende mère supérieure. Je vous fais mes adieux.
Peut-être la mort ne nous séparera-t-elle pas, répondit Taratza.
C'était la formule d'adieu traditionnelle d'une sœur à une autre.
Partez!
L'homme au visage rude se précipita vers la porte étanche de la coursive, l'ouvrit brusquement pour révéler deux gardes ixiens au visage surpris.
D'une voix rauque, il ordonna «
Conduisez-les à leur navette !»«
Faites venir votre suite, mère supérieure, » dit Teg sans se départir de son calme.
Puis il s'adressa à l'homme qui se tenait sur le seuil de la coursive.
« Vous accordez trop de valeur à votre propre peau pour faire un bon soldat. Aucun de mes hommes n'aurait commis une telle erreur. »
« Il y a de véritables honorés matriarches à bord de ce vaisseau, » grinça l'homme. « Mon devoir est de protéger leur vie. »
Teg fit la grimace et se tourna vers l'endroit où Taratza accueillait sa suite, qui se trouvait dans la pièce à côté. Il y avait là deux révérendes mères et quatre acolytes. Il reconnut l'une des révérendes mères, Darvi Odrad. Il ne l'avait vue auparavant qu'une seule fois et de loin, mais l'ovale de son visage et ses yeux merveilleux ne pouvaient le tromper. Elle ressemblait trait pour trait à Lucille.
Avons-nous le temps de faire les présentations? Demanda Taratza.
Naturellement, mère supérieure.
Il s'inclina devant les deux femmes et leur serra la main tandis que Taratza les présentait. En partant, il dit à l'étranger en uniforme,
il faut toujours prendre le temps de respecter les civilités. Autrement, nous sommes moins qu'humains.
Ce n'est que lorsqu'ils furent tous à bord de la navette que Teg, assis à côté de Taratza, lui posa la question prioritaire.
Comment vous ont-ils capturé?
La navette plongeait vers la surface de la planète. L'écran devant Teg l'informait que le vaisseau de la guilde frappé aux armes d'Ix obéissait à son ordre de ne pas quitter l'orbite où il se trouvait tant que leur appareil ne serait pas en sécurité à l'intérieur de la zone de défense planétaire. Avant que Taratza pût lui répondre, Odrad se pencha vers l'allée qui séparait leur siège en disant
« J'ai annulé l'ordre du Bachar de détruire ce vaisseau de la guilde, mère supérieure. »
Teg tourna vivement la tête pour lui lancer un regard furieux.
« Ils vous ont fait prisonnière et... Comment saviez-vous »
ajouta-t-il en fronçant les sourcils.
« Miles !»
La voix de Taratza contenait un reproche d'une douceur infinie. Il eut un sourire penaud.
Oui, elle le connaissait aussi bien qu'il se connaissait lui-même. Mieux sous certains aspects.
« Ils ne nous ont pas simplement capturés, Miles, » reprit Taratza. nous nous sommes laissés prendre. J'escortais officiellement Dar jusqu'à Rakis. Nous avons laissé notre non-vaisseau sur jonction et demandé le transport de la guilde le plus rapide qui fut disponible. Tous mes conseillers, y compris Burt Mali, étaient d'accord pour prédire que ces étrangers de la dispersion s'empareraient du transport pour nous conduire à vous, en espérant récolter tous les morceaux du projet Gola.
Teg était stupéfait. Un tel risque.
Nous savions que vous viendriez à notre secours,
poursuivit Aratza.
Et Burt Mali était là pour le cas où vous n'auriez pas pu le faire.
Ce vaisseau de la guilde que vous venez d'épargner va demander des renforts et attaquer notre...
Ils n'attaqueront pas Gameux, dit Aratza. Il y a sur cette planète trop de forces diverses qui font partie de la dispersion. Ils n'oseront pas s'aliéner tous ces gens.
Je voudrais bien en être aussi certain que vous le paraissez.
Vous pouvez l'être, Miles. Mais nous avons d'autres raisons de ne pas détruire ce vaisseau. La guilde et les Ixiens viennent de se faire prendre en flagrant délit de rupture de neutralité. C'est mauvais pour le commerce et ils ont besoin en ce moment, j'en suis sûr, de toutes les affaires qu'ils peuvent se procurer.
À moins qu'ils n'aient en vue de plus gros clients qui leur offrent de meilleures conditions.
Ah, Miles,
fit Aratza d'une voix rêveuse.
Ce que nous autres Bene Gesserit de la dernière époque tentons de faire, c'est de laisser les choses s'apaiser, s'équilibrer. Vous le savez bien.
Teg reconnaissait la vérité contenue dans ses paroles, dont une seule partie retenait cependant son attention. Nous autres Bene Gesserit de la dernière époque. Ces mots avaient un avant-goût de mort, mais sans lui laisser le temps d'approfondir, Taratza poursuivit.
Nous aimons bien régler les conflits les plus passionnés en dehors du champ de bataille. Je dois admettre que c'est aux tyrans que nous sommes redevables de cette attitude. Vous ne vous considérez peut-être pas comme un produit du conditionnement du tyran, Miles, mais vous l'êtes bel et bien.
Teg accepta cela sans commentaire. C'était un facteur primordial dans l'expansion de la société humaine. Aucun mentat ne pouvait ignorer cette donnée.
C'est cette qualité, Miles, qui nous a attirés vers vous en premier lieu, continua Taratza. Vous pouvez être horriblement frustrant par moments, mais nous ne voudrions pas que vous soyez fait autrement.
À des détails subtils de sa voix et de son comportement, Teg se rendit compte que Taratza ne parlait pas seulement pour lui, mais également au bénéfice de leur entourage.
Vous rendez-vous compte, Miles, comme c'est affolant de vous entendre soutenir deux points de vue opposés à la fois avec une force égale? Mais ce pouvoir de sympathie que vous possédez est une arme puissante. Comme certains de vos ennemis ont été terrifiés de vous voir surgir là où ils n'avaient pas le moindre soupçon que vous pouviez apparaître.
Teg s'autorisa un léger sourire. Il jeta un regard aux femmes assises de l'autre côté du passage central. Pourquoi Taratza tenait-elle à ce qu'elles entendent ces mots? Darvi Odrad paraissait assoupi, la tête en arrière, les yeux clos. Plusieurs autres bavardaient à voix basse, mais cela ne voulait rien dire. Même de simples acolytes formés par le Bene Gesserit étaient capables de suivre plusieurs trains de pensée à la fois. Il reporta son attention sur Taratza.
Vous sentez véritablement les choses de la même manière que vos ennemis les sentent, continuait la mère supérieure. C'est cela que je voulais dire. Et bien entendu, quand vous êtes dans cet état d'esprit, il n'existe plus d'ennemis pour vous.
Plus d'ennemis?
Ne vous méprenez pas sur mes paroles, Miles. Nous n'avons jamais mis votre loyauté en doute. Mais il est bien étrange de constater comme vous pouvez nous faire voir des choses que nous n'aurions aucun autre moyen de percevoir. Il y a des moments où vous nous servez Dieu.
Darvi Odrad avait ouvert les siens et il vit qu'elle l'observait. C'était une femme magnifique. Il y avait quelque chose qui le troublait dans son physique. Comme Lucille, elle lui rappelait quelqu'un dans son passé. Avant qu'elle pût explorer plus avant cette pensée, Taratza demanda
« Le Gola possède-t-il cette capacité de faire l'équilibre entre deux forces opposées ?»«
Il pourrait faire un mentat, » répondit Teg.
« Il a été un mentat dans l'une de ses incarnations, Miles. »«
Vous tenez à l'éveiller malgré son jeune âge ?»«
Il le faut. C'est une question de vie ou de mort. »